Bonjour à tous. Ça va? La semaine dernière, on a fait en entier le livre du Deutéronome, et donc on a terminé le Pentateuque. Simplement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à la fin du Deutéronome, l'histoire n'est pas finie. On est censé nous raconter l'Exode depuis le livre de l'Exode, depuis le deuxième livre de la Bible, on nous raconte comment le peuple d'Israël sort d'Égypte et se dirige vers la terre que Dieu lui donne, que Dieu avait déjà promise aux patriarches dès l'époque d'Abraham, mais surtout qu'ils vont obtenir maintenant sous la direction de Moïse. Sauf que finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Et puis finalement, Moïse meurt et le peuple n'est toujours pas entré en terre promise. Donc en un sens, le Pentateuque peut difficilement être considéré comme une unité littéraire. Pourtant, c'est la première partie de la Bible hébraïque. On dit la Bible hébraïque a trois parties. La première partie, c'est le Pentateuque. Mais en réalité, si vous lisez le Deutéronome, vous vous rendez compte que l'histoire n'est pas finie. Alors Moïse est mort, certes, mais on ne peut pas vraiment dire que l'histoire soit achevée. En fait, il faut lire le livre de Josué pour achever le Pentateuque. Ça a donné donc des théories non pas d'un Pentateuque, mais d'un hexateuque. Hexateuque comme 6. En disant finalement l'unité, elle est là. Ou alors un Pentateuque, mais qui exclurait la Genèse. On commencerait avec l'Exode, on terminerait avec Josué. On aurait ce cycle Moïse-Josué, entrer en possession de la terre promise. D'autres théories disent, on en a discuté la semaine dernière, on s'est rendu compte que le Deutéronome était quand même sensiblement différent des autres livres du Pentateuque au niveau du style, au niveau du vocabulaire. On a parlé d'expressions caractéristiques, le lieu que Dieu choisira pour y faire demeurer son nom, etc., etc. Et très tôt, on s'est rendu compte que le Deutéronome, par ailleurs, qui reprend d'autres éléments qu'on a dans l'Exode, dans le Lévitique, d'où son nom, Deutéronome, il répète un petit peu des choses, c'est une seconde loi. En fait, on s'est dit, il est un petit peu à part. Peut-être même aurait-il des origines, une autre origine que celle des autres livres. Alors, d'autres, donc, finalement, vont avoir tendance à détacher le Deutéronome, auquel cas on n'a pas un Pentateuque, mais un Tétrateuque, quatre livres de la Genèse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Et puis à partir de Deutéronome, on commence au contraire une nouvelle section de la Bible avec le Deutéronome et ce qui suit, Josué, Juges et compagnie, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu la difficulté de positionner tantôt le Deutéronome avec et sans les livres qui précèdent, le livre de Josué avec le Deutéronome ou au contraire avec les livres qui suivent, etc., etc. On se rend bien compte qu'il y a ici des origines différentes, probablement avec une rédaction probablement longue sur plusieurs siècles, et donc ça a donné lieu à diverses théories qu'on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, mais simplement c'est pour que vous soyez conscient qu'il y a tous ces débats qui sont encore très vifs à l'heure actuelle sur la question, par exemple, de l'historiographie deutéronomiste. Quand on parle de l'historiographie deutéronomiste, alors un petit mot de vocabulaire, le Deutéronome, on dit qu'il a été rédigé par le Deutéronomiste, forcément, on va lui donner un nom, on ne sait pas qui c'est. Et puis, il y a cette idée que la même personne qui aurait rédigé le Deutéronome, ou les mêmes milieux, ça me paraît un petit peu, disons, là, c'est un petit peu téméraire d'imaginer que c'est une seule personne. Cela dit, il y a des spécialistes qui ont vu que c'était une seule personne. Martin Note est capable de dire, oui, moi, je pense qu'il vivait à tel endroit, à telle époque, et que c'était un gars isolé. Enfin bref, c'est marrant, il dresse son profil, c'est des profilers de l'époque. Bref, en tout cas, les milieux qui ont produit le Deutéronome sont les mêmes milieux qui ont produit les livres qui suivent. Voilà, c'est l'idée qui a été avancée déjà il y a longtemps. Et donc, ça veut dire que tous ces livres historiques qui suivent le Deutéronome, donc le livre de Josué, le livre des Juges qu'on va voir aujourd'hui, puis ensuite Samuel, Roi, finalement tout ça, c'est une grande rédaction de l'histoire, donc une historiographie. Alors, pas historiographie au sens... disons, ce ne sont pas des historiens. On voit bien, quand vous lisez ces livres-là, oui, d'accord, on vous raconte des histoires, mais on voit bien que l'intention, elle est avant tout théologique. Et que ce ne sont pas des gens qui sont dans une posture en disant « Moi, je suis historien, je cherche seulement à vous donner les faits, rien que les faits, tous les faits. » Un peu comme ça, à la manière des grands historiens grecs. Bon, sauf que, ce dit en passant, les grands historiens grecs de l'Antiquité ne sont pas non plus très objectifs. Il y a une raison pour laquelle ils s'amusent à raconter tout ça. Vous lisez Hérodote et compagnie, vous lisez Flavius Joseph, enfin bref. Mais toujours est-il qu'on nous raconte l'histoire d'Israël au moment de la prise du pays, et puis jusqu'à la fin de la monarchie, c'est-à-dire jusqu'à l'exil à Babylone. Donc toute cette grande fresque historique, on appelle ça l'historiographie deutéronomiste ou l'histoire deutéronomiste. Alors pourquoi deutéronomiste? Précisément parce qu'on va retrouver les mêmes accents, les mêmes intonations, les mêmes formules, les mêmes intentions que dans le livre du Deutéronome. Donc pour certains, c'est clair, ce sont les mêmes milieux qui ont produit l'ensemble. Alors on va regarder ça d'un peu plus près aujourd'hui avec le livre de Josué et le livre des juges. On va commencer par le livre de Josué. Le livre de Josué s'inscrit donc dans la suite immédiate du Deutéronome. À la fin du Deutéronome, Moïse est mort, il a fini par mourir. On a vu qu'il y a eu plusieurs discours, et il donne encore un discours, il y a encore des bénédictions, il y a encore un cantique, il y a encore un discours, et puis bon, voilà, il finit quand même par mourir. Et c'est Josué, son intendant, qui prend la relève et qui va permettre au peuple de traverser, puisque là on est en Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, on s'apprête à traverser le Jourdain pour entrer en possession de la terre promise. C'est sous Josué que ça va se faire. Donc le livre de Josué est censé relater en fait la prise de la terre promise. Et c'est effectivement ce qu'on trouve dans le livre de Josué. Sauf que ça n'occupe que la moitié du livre de Josué. À la fin du chapitre 12, tout est fait. Au chapitre 12, vous avez déjà la liste de toutes les villes qui ont été prises. Ça y est, tout le monde y est. Et donc le livre pourrait s'arrêter là. Sauf qu'ensuite, il va y avoir des longs chapitres qui vont être consacrés à la répartition du territoire entre les tribus israélites. Vous avez des longues listes de toponymes, etc. C'est très intéressant d'un point de vue de la géographie historique. Et puis, ça, c'est également intéressant pour voir les relations entre les tribus. Et puis enfin, à la fin, il y a des chapitres, quelques petits chapitres qui traitent de cas particuliers, le cas des tribus transjordaniennes, le cas des villes attribuées aux prêtres et aux lévites. Et puis, il y a des discours pareils. Vous allez voir que Josué, il a du mal à mourir parce qu'il va faire un premier discours et puis encore un deuxième discours. Mais il va quand même finir par mourir. Mais il va ressusciter après. Ouais, c'est très drôle. Alors, donc, chapitre 1er de Josué. Donc voilà, grosso modo, deux grosses parties. Hein. Retenez, pour avoir les choses en tête. Première moitié du livre de Josué, c'est conquête militaire, récit de bataille. Deuxième moitié du livre de Josué, répartition du territoire et questions diverses. C'est l'ordre du jour du livre de Josué. Au premier chapitre du livre de Josué, on voit clairement la transition par rapport au Deutéronome après la mort de Moïse. Bon. Et vous voyez que Moïse est très présent. Il est mort, mais regardez combien de fois son nom est mentionné. Son nom apparaît au verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, fils de Moïse. Déjà, il y a Moïse deux fois, c'est le verset 1er. Verset 2, Moïse, mon serviteur, on a compris, est mort, maintenant passe le Jourdain, etc. etc. Comme je l'ai dit à Moïse. Verset 3. Et donc, on explique bien que c'est ce que Dieu a dit à Moïse. On a les dimensions, les frontières du territoire. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bon, on a compris. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. On continue, etc. Verset 7. Sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, alors on a compris, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Donc, insistant sur la place prédominante de Moïse, il est mort, mais c'est lui le personnage principal, mine de rien. Et puis surtout, Moïse a donné des instructions et Josué n'est pas là pour faire le mariole. Josué est simplement là pour exécuter ce que Moïse a dit, les ordres que Dieu a donnés à Moïse ou que Moïse a donnés, etc. Donc, on voit bien que Josué n'est pas là pour devenir un deuxième Moïse. C'est bien, s'il y a bien un personnage fondamental, c'est Moïse. Et donc, et bien sûr, les paroles que Dieu a données, et puis également le livre. Attention, il y a des choses qui ont été mises par écrit. Il y a une loi, verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, etc. etc. Donc, puis Moïse, on continue à le retrouver un peu plus loin, c'est Josué cette fois-ci qui parle. Josué, verset 12, dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Souvenez-vous de ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné. » Donc Dieu dit à Josué, souviens-toi de ce que Moïse a dit. Josué dit, souvenez-vous de ce que Moïse a dit. Donc vous voyez, c'est le premier chapitre est là pour recadrer. Au cas où certains seraient tentés d'oublier Moïse, de dire maintenant le nouveau héros, c'est Josué. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est Moïse qui reste derrière tout ça. Et puis il est le serviteur. Hein, donc on retrouve encore Moïse à la fin du verset 15. Moïse, serviteur du Seigneur, vous l'a donné en Transjordanie du côté du soleil levant. Et regardez la réponse, verset 16. Ils répondirent à Josué, tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons. Alors finalement, ils obéissent à Josué. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'écouterons exactement comme nous avons écouté Moïse. Ah, heureusement, on s'est dit ça y est, Moïse est oublié. Non. Seulement que le Seigneur ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Bon, ça va? Vous avez compris? C'est clair? Moïse? Bon, c'est bien. Alors on continue. Après ce premier chapitre d'introduction qui recadre les choses, et bien maintenant on se met au boulot. Il faut prendre la conquête, faut partir à la conquête de la terre promise. On envoie des espions. Alors l'envoi des espions, ça doit vous rappeler des souvenirs. On avait la même chose dans Nombre au chapitre 13, où on envoie des espions en terre promise, un espion par tribu, donc 12 espions au total. Josué, le jeune Josué à l'époque, en faisait partie. Maintenant, il a 40 ans de plus. De nouveau, on envoie des espions. Pas très loin, on les envoie à Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est juste de l'autre côté du Jourdain. Donc franchement, on la voit, comme c'est la plaine en plus, la plaine du Jourdain, on voit Jéricho depuis les montagnes. Je ne sais pas combien de kilomètres c'est, mais enfin, ça se fait en une journée de marche, à mon avis. Et donc, ils y vont, et là, il y a l'histoire de Jéricho. Alors, la prise de Jéricho, c'est la première ville qu'ils vont conquérir, et là, elle va occuper 4 chapitres, enfin, plus que ça, 5 chapitres, du chapitre 2 au chapitre 6, ça va être la première bataille. Alors, on se dit, mince, si chaque conquête de chaque ville occupe autant de chapitres, on n'est pas rendu. Bon. Alors en fait, il y a toute une histoire, ils sont hébergés par une prostituée qui s'appelle Rahab, au chapitre 2 nous dit-on. Alors on apprend, le roi de Jéricho apprend qu'il y a des espions, il fait fouiller, mais elle les protège, elle les cache, elle les protège, etc. Et elle leur demande, en échange, de l'épargner. Elle dit au verset 9, chapitre 2, verset 9, « Je sais que Yahvé vous a donné le pays. » Yahvé, c'est donc le dieu des Israélites. Elle continue, verset 11 un peu plus loin, « Le Seigneur, c'est-à-dire Yahvé, votre Dieu, est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. » C'est une expression qu'on avait déjà rencontrée dans le Deutéronome. Donc il y a cette idée centrale du Deutéronome, on avait vu, hein, il y a un seul Yahvé, c'est Yahvé qui est Dieu, etc. etc. Donc ces affirmations très claires sur Yahvé en tant que c'est lui qui est Dieu et pas les autres, et c'est lui qui règne, etc., on la retrouve dans la bouche de Rahab, qui n'est pas une Israélite, qui est en plus une prostituée, c'est une femme. Alors du coup, elle les protège. Au chapitre 2, à la fin, ils repartent, ils reviennent, verset 24, à coup sûr, c'est ce qu'ils disent, verset 24, « Yahvé nous a livré tout le pays, les habitants du pays défaillent devant nous. » Donc vous voyez ici le contraste avec Nombre chapitre 13, où là, ils reviennent et ils ont dit « Oui, on va y arriver. » Enfin, seul Josué et Caleb disaient « On va y arriver, on va y arriver. » Tous les autres disaient « On va se faire massacrer. » On était des sauterelles, à nos yeux et aux leurs d'ailleurs. Et donc, là, le discours est très différent. Non, pas de problème, on va y arriver. Alors, on se dit, ça y est, ils vont prendre Jéricho. Eh bien non, il y a encore des chapitres intermédiaires. La bataille elle-même, il faut attendre le chapitre 6. Donc, on nous fait poireauter comme dans un bon film. Et au chapitre 3, on traverse le Jourdain. Alors, bien sûr, il va y avoir un miracle, puisqu'on ne va pas traverser le Jourdain comme ça. Non, on va y avoir un miracle. Ils vont traverser à sec. Alors, traverser à sec, ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est la traversée de la mer des Jonques, la mer des Roseaux, avec Moïse. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de reprise d'un certain nombre de miracles qu'on a vus au moment de l'Exode. Donc on voit que dans ces chapitres-là, on réitère un certain nombre de choses qui sont caractéristiques de l'Exode, notamment le passage à sec. C'est ce que vous voyez donc, chapitre 3, regardez verset 15. « Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau au bord, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance. Le peuple traversa en face de Jéricho, fin du verset 16, verset 17. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Alors là, on va ériger 12 pierres au chapitre 4, qu'on va prendre du milieu du Jourdain et qui vont servir de commémoration. Et donc, ces pierres sont élevées à un lieu qui s'appelle Gilgal. Donc, et c'est là qu'ils campent. Gilgal est donc de l'autre côté du Jourdain, à proximité immédiate, en direction de Jéricho. Alors, on ne connaît pas la localisation exacte de Gilgal. Ça a dû être un lieu... probablement comme Karnak ou je sais pas quoi, enfin bref, hein, vous savez, ce genre de lieux. Gilgal va revenir régulièrement dans le livre de Josué et ailleurs, et vous verrez que dans la Bible, la ville de Gilgal n'est pas toujours bien perçue. Elle est parfois plutôt bien perçue. On sent qu'il y a peut-être des gens un peu pro-Gilgal, on va le voir notamment au chapitre 10, tout ça. Dans d'autres textes, c'est les prophètes notamment, Gilgal n'a pas bonne presse. En tout cas, voilà, donc ce chapitre 4 et nous raconte la traversée du Jourdain. Alors on se dit, bon, bah, ça y est, ils vont attaquer la ville. Eh bien non. Au chapitre 5, on s'attend, hein, regardez, verset 1er, lorsque tous les rois des Amorites qui étaient au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, apprirent que le Seigneur avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils soient passés, leur cœur fondit, et ils perdirent le souffle devant les Israélites. Alors on se dit, bah donc ils vont les attaquer. Eh bien non. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les Israélites. Alors, vous voyez, d'un seul coup, on nous parle d'un récit de circoncision, alors qu'on vient de nous parler de la réaction des rois. Donc, l'épisode, déjà, bon, des pierres qu'on dresse au Gilgal, est pas mentionné. Les Amorites apprennent, les rois cananéens Amorites apprennent. Donc déjà, vous pourriez virer pratiquement tout le chapitre 4. On peut passer de la fin du chapitre 3 directement au chapitre 5, verset 1er. Ils viennent de traverser à sec. Les rois apprennent qu'ils ont traversé à sec, donc ils font la guerre. C'est comme ça qu'on s'attendrait. Et en fait, on sent qu'un certain nombre de récits ont été insérés pour augmenter. C'est comme ça qu'on rédige. On dit, tiens, mais j'ai envie de donner des détails. Tiens, j'ai envie de raconter qu'après la traversée, ils ont érigé des pierres. Et puis là, d'un seul coup, on va encore nous raconter une histoire de circoncision. Donc le peuple va se faire circoncire. Donc on reprend encore toutes les traditions qui sont là, on les reprend les unes après les autres. La circoncision, ça remonte à Abraham. Et donc, ils vont circoncire. On nous dit au verset 5, « Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple qui était né dans le désert en chemin, alors qu'il sortait d'Égypte, on n'avait circoncis personne. » Donc, voilà, la nouvelle génération, c'est la nouvelle génération. Cette nouvelle génération qui est née dans le désert, elle a besoin de revivre ce que les anciennes générations ont vécu. Donc, ils revivent la circoncision, ils revivent le passage à sec, ils revivent plein de choses. Quand je vous dis que ces blocs comme ça peuvent être insérés ou pas insérés, on a les attestations dans les manuscrits les plus anciens. Par exemple, au chapitre 5, juste après le verset 1er, au lieu d'avoir l'histoire de la circoncision de Pierre, on a l'histoire de l'érection d'un autel que vous retrouvez dans vos Bibles à la fin du chapitre 8, au verset 30. On bâtit un autel sur le mont Ebal. À vous rappeler, la dernière fois, la semaine dernière, on a parlé du mont Ebal et du mont Garizim. Eh bien, on va retrouver dans le livre de Josué des traditions liées au mont Ebal et au mont Garizim. Mais par exemple, cette péricope, hein, donc ce passage à la fin du chapitre 8, qui, dans le texte hébreu traditionnel tardif, texte qu'on appelle massorétique, est à la fin du chapitre 8. En fait, il est au chapitre 5 dans des témoins anciens, comme par exemple un des manuscrits de Qumran, et également dans des textes grecs du 1er siècle de notre ère, par exemple c'est Flavius Joseph. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a, et en plus, si vous prenez la traduction grecque ancienne, la vieille version grecque, qu'on appelle souvent la Septante, un peu abusivement, puisque la Septante techniquement c'est uniquement le Pentateuque, mais disons la version grecque ancienne, qui date probablement du 2e siècle avant notre ère, de la même manière, elle est sensiblement plus courte que le texte hébreu. Il y a des passages qui manquent, des versets qui manquent, etc. Donc, on a la preuve que le livre de Josué, on a continué à l'enrichir pendant assez longtemps. Alors, on se dit, bon, bah, ça y est, ils vont attaquer. Eh bien, non. Verset 10, ils célébrèrent la Pâque. Mais attendez. De la même manière que la génération dans le désert a célébré la Pâque, nous célébrons la Pâque également. Et on nous dit au verset 12, « La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites. Ils mangèrent des produits de Canaan cette année-là. » Donc on voit le point de rupture, la manne, vous vous souvenez de l'épisode de la manne, les gens sont dans le désert et tous les matins, il y a cette espèce de céréales qui est là et dont ils peuvent faire de la farine et ils peuvent du coup en faire des pains. Eh bien la manne, elle cesse. Autrement dit, Dieu il dit « Maintenant c'est fini. Maintenant il faut vous bouger, faut vous prendre par la main. » Et puis, il faut prendre possession de cette terre, il faut la cultiver. Alors, on dit, bon, bah, ça y est, on va attaquer maintenant. Eh bien non, vous avez encore un petit épisode à la fin du chapitre 5. Et il y a un homme, Josué, lève les yeux, il regarde. Un homme se tenait en face de lui, son épée tirée, verset 13. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Il répondit, « Je suis le chef de l'armée de Yahvé. Maintenant, je suis arrivé. » Josué tomba face contre terre. Josué aurait pu dire, bah non, c'est moi. Bref. Prosterné et lui dit, qu'as-tu à me dire, mon Seigneur ? Le chef de l'armée de Yahvé dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Ça vous rappelle quelque chose, le lieu sur lequel tu te tiens est sacré ? Hein ? C'est le buisson ardent, Exode chapitre 3. Voilà, c'est ça. Moïse arrive, révélation. Donc vous avez cette sorte d'épiphanie, c'est-à-dire de révélation divine comme ça, et il faut ôter ses souliers. Donc là encore, vous voyez à quel point on a gonflé le récit pour que dire, oui, mais attendez, tout ce que vous voyez, tout ce qui s'est passé, eh bien on le revit. différemment, bien sûr. Hein. Là, c'est pas un buisson ardent, c'est un grand gaillard avec une épée, tout ça, mais l'idée est la même. Et évidemment, ce chef de l'armée, de tout ça, c'est un être céleste, un être divin. Alors, de qui s'agit-il ? On n'en sait rien. Moi, j'aurais envie de dire que c'est Michael, au hasard. Voilà, comme ça. Non. Alors, non, mais pour la petite histoire, c'est pas juste parce que c'est mon prénom, mais c'est parce que vraiment, dans les littératures juives anciennes, l'archange Michael est le chef des archanges et c'est le chef de l'armée. Voilà. Et même dans la tradition chrétienne, Michel, Saint Michel, vous savez, il a son épée, il terrasse le dragon. Vous avez tous vu des représentations, des peintures, des statues, des je sais pas quoi, etc. Bon, je sais pas si à Strasbourg, il y a une. Mais à Paris, il y a la place Saint Michel avec la fontaine Saint Michel, avec. Enfin, voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, là, pour Noël. Bon, alors, chapitre 6. Enfin, on va attaquer Jéricho. Il était temps, hein. On arrive à Jéricho. Sauf que Jéricho est fermé, évidemment. Il y a des grandes murailles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller bastonner. Eh bien, non. Là encore, on dit, eh bien, vous tournerez verset 3. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Je ne sais pas à quoi ça sert d'être des hommes de guerre s'il s'agit simplement de tourner autour. Les hommes de guerre, ils sont là pour rentrer dans le tas. Et en fait, non, ils doivent tourner, et avec des prêtres, etc. Le 7e jour, on fait 7 fois le tour. Et à ce moment-là seulement, on sonne la corne, et on pousse des acclamations, et on dit « Le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même. » Verset 5. Alors, c'est ce qu'ils font, et c'est ce qui se passe. Le 7e jour, verset 15, ils font ça, ils se lèvent, et 7 fois, la 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe, et Josué dit au peuple, lancez une acclamation, car le Seigneur vous a donné la ville, etc., etc. Et on nous dit, verset 20, le peuple lança une acclamation, on sonna de la trompette, lorsque le peuple entendit le son de la trompe, il lança une grande acclamation, le rempart s'écroula sur lui-même, le peuple monta à l'assaut de la ville, chacun devant soi, ils prirent la ville. Ils frappèrent d'anathème tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, bœufs, moutons et ânes, ils les passèrent au fil de l'épée. Aïe. Alors là, c'est tout le problème de l'anathème. On a déjà rencontré l'anathème dans le Pentateuque avec Moïse, hein. On a déjà vu le même principe, c'est-à-dire que, alors c'est traduit par, en français on dit anathème, mais anathème c'est la traduction du mot grec, translittération, anathéma, c'est placer en haut, donc c'est faire monter en fait. Donc l'anathème c'est ce qu'on élève littéralement, on élève vers Dieu, c'est ce qu'on offre si vous voulez, comme en offrande, c'est une offrande à Dieu. Et ça veut dire qu'on ne garde rien, on ne garde rien. L'idée elle est là, c'est on consacre, c'est une consécration. On consacre à Dieu, alors que normalement on prend un butin. Quand on prend une ville, eh bien, toutes les richesses, tout ça, on garde ça pour soi. Eh bien là, le principe de l'anathème, c'est non, on ne garde rien pour soi. Tout va pour Dieu. Et la façon d'offrir à la divinité, c'est le sacrifice. C'est comme ça qu'on fait dans l'Antiquité. Si je veux offrir un bœuf à une divinité, bah, je le brûle. Donc là, on tue tout le monde. Alors, tout le monde, sauf la fameuse Rahab. Ils ont fait sortir, verset 23, Rahab, avec sa famille, son père, sa mère, ses frères, tout ce qui lui appartenait. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle habite au sein d'Israël jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est la fameuse Rahab, elle va rester dans l'histoire d'Israël, nous la retrouverons, elle fait partie des ancêtres de David, du célèbre roi David. Donc dans la généalogie du roi David, son aïeul, c'est une prostituée qui n'est pas israélite, qui s'appelle Rahab. Et si vous allez jusque dans le Nouveau Testament, vous la retrouvez également dans la généalogie de Jésus. Donc parmi les ancêtres de Jésus, il y a une femme, une prostituée, qui n'est pas israélite. Voilà. Et ça, là, il y a un message fort qui est véhiculé et qui va être renversé, enfin, qui ne va pas renverser, mais qui va être, dont on va trouver l'opposé au chapitre 7. Vous allez voir ce qui va se passer. Au chapitre 7, il est question d'un homme qui s'appelle Akan. Et lui, il ne fait pas ce qu'on a dit. On a dit que tout était anathème et qu'il ne fallait rien garder pour soi. Seulement lui, on nous dit au verset premier, il prit une part de ce qui avait été frappé d'anathème et le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Du coup, mais ça, on ne le sait pas. On nous dit ça comme ça. Et ensuite, ils attaquent la deuxième ville. Après avoir pris Jéricho, ils vont s'attaquer à Haï. Alors on se dit, s'il faut de nouveau, je ne sais pas combien de chapitres pour prendre Haï, on est mal barré. En fait, ça va prendre 2 chapitres. Ça ne va pas bien se passer. Ils vont y aller. Et ils se font battre. Ils attaquent, ça marche pas. Alors ils se disent, mais bon sang, mais comment ça se fait que ça marche pas? Jéricho, c'était les doigts dans le nez. Et Haï, on se fait avoir. Que se passe-t-il? Eh bien, l'explication tombe au verset 10. Verset 11, Israël a péché. Verset 12, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils s'enfuiront devant leurs ennemis car ils sont eux-mêmes frappés d'anathème. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est frappé d'anathème. Autrement dit, si vous ne m'obéissez pas, vous n'y arriverez pas. Donc la leçon est très claire. L'aspect pédagogique est évident. Vous réussissez. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous donne la victoire. Donc il faut que vous soyez obéissant. Donc si on dit que c'est anathème, il ne faut pas transiger. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais on mène une enquête, on se rend compte que c'est Akan. Akan répond, dit à Josué, verset 20, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur. Verset 25, Josué dit, pourquoi as-tu attiré le malheur sur nous? Tout Israël lui jeta des pierres, on les brûla, on les lapida. Alors, c'est pareil, c'est pas non plus, c'est pas gay, hein. C'est pas une période spécialement gay de l'histoire d'Israël. Mais là encore, l'aspect pédagogique est là. C'est-à-dire qu'on ne badine pas avec la loi divine. Et là, comme par hasard, chapitre 8, deuxième tentative, bataille d'Aï bis. Et là, ça marche. On y va et on attaque Aï. Et ils la prennent. Hein, verset 19, à la fin du verset 19, ils arrivèrent à la ville et la prirent. Ils se hâtèrent de mettre le feu à la ville. À la fin du verset 22, on dit qu'ils les battent sans leur laisser aucun survivant, aucun rescapé. Verset 23, quant au roi du Haï, ils le prirent vivant et le présentèrent devant Josué. On présente le roi. Verset 29, quant au roi du Haï, il le pendit au bois jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna alors de descendre le cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et on dressa sur lui un grand tas de pierres qui est là jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez, c'est très clair que... là, pour le coup, on ne se loupe pas une deuxième fois, on prend bien soin. Alors, vous prenez, si vous contrastez Rahab et Akan, vous voyez le contraste. Rahab est une femme, Akan est un homme. Akan est israélite, Rahab n'est pas israélite. Mais Akan désobéit, alors que Rahab a foi. Du coup, Akan est exclu du peuple, alors que Rahab est incluse dans le peuple. Vous pouvez mettre comme ça, hein, en face à face, tous les éléments. Je peux le redire si vous voulez, hein, je vous dis ça de tête comme ça. Mais, donc, d'accord, alors je vois qu'il y en a qui prennent des notes, c'est bien, vous avez raison de prendre des notes. Donc je disais, je ne sais plus ce que j'ai dit, Rahab est une femme, Akan est un homme. Akan est israélite, Rahab n'est pas israélite. Mais Rahab est obéissante, alors qu'Akan est désobéissant. Rahab a la foi en Dieu, alors qu'Akan, il est... Bon. Du coup, Akan est puni. Est exclue alors que Rahab est récompensée et incluse dans le peuple. Et vous avez déjà un modèle, déjà à cette époque-là, de dire attention, ce qui compte, c'est la foi, c'est l'obéissance. Il vaut mieux ne pas être israélite, mais avoir la foi en Dieu, croire et dire comme Rahab, hein, c'est la confession de foi. Hein. Rahab dit, chapitre 2, verset 11, « Le Seigneur Yahvé, votre Dieu, est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. » Ça, c'est une confession de foi. Elle dit, « Moi, je suis yahviste. Je crois en Yahvé, voilà, alors que ce n'est pas mon Dieu, c'est votre Dieu, mais j'adopte votre Dieu. » Donc, il vaut mieux être une prostituée et croire ça qu'être un israélite en disant « Mais j'ai dans mon sang coule dans mes veines coule le sang d'Abraham, etc. etc. » Et vous retrouvez ce dont on avait discuté la semaine dernière dans le Deutéronome, et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains par exemple, et vous retrouvez également dans l'Épître aux Galates. Donc il y a cette idée vraiment de voilà. Et donc là c'est très clair qu'il y a cette symétrie entre Rahab et Akan immédiatement. Hein, Akan arrive immédiatement après au chapitre 7. Voilà. Alors on continue, ça y est, on a deux villes de prise, on se dit mais à ce rythme-là on ne va pas s'en sortir. Et au chapitre 9, on nous dit, quand ils l'apprirent, tous les rois qui étaient au-delà du Jourdain, alors quand ils l'apprirent, quand ils apprirent quoi? Quand ils apprirent ce qui avait été fait, notamment aux rois, parce qu'en principe, à l'époque, les rois, on les traite, etc. Enfin, il y a quand même il y a la convention de Genève, tout ça, enfin, c'est tout à fait à l'époque, mais il y avait quand même la diplomatie. Donc ça veut dire que le verset 1 du chapitre 9 suit immédiatement le verset 29, en principe. Et cette fameuse péricope des versets 30 à 35, dans Josué 8, on voit bien qu'elle a été insérée après coup. Parce que si vous lisez chapitre 9, verset 1er, enfin voilà, bref, tout ça pour vous dire que ça se lit très bien sans cette péricope. Donc c'est comme ça qu'on détecte le fait qu'on a enrichi le texte. Et que cette péricope-là, par ailleurs, je vous ai dit, elle est ailleurs. Chapitre 8, les versets 30 à 35, on les retrouve au chapitre 5 dans certains témoins. Alors, le fait de le pendre, on nous dit au verset 2 du chapitre 8, je reviens un peu en arrière, Dieu avait dit à Josué, tu traiteras le Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Donc le traitement qui est infligé au roi de Haï, en principe, c'est le même traitement que celui qui est infligé au roi de Jéricho. Sauf que moi, j'ai peut-être pas bien lu, mais j'ai pas vu qu'on nous disait que le roi de Jéricho, on l'a pendu, et puis le soir, on l'a décroché, etc., etc. Or, donc ça veut dire quelque part, il nous manque quelque chose. Donc pareil, il a dû y avoir un état du texte où il y avait cette mention-là qui a dû disparaître à un moment donné. On va retrouver la même chose au chapitre 10. Donc juste après. Et pareil, il sera... Bon, voilà. Donc on aura le même sort. Alors donc, pareil, donc chapitre 1, on voit quand ils apprirent tous les rois qui étaient au-delà du Jourdain se rassemblèrent, verset 2, d'un commun accord pour faire la guerre à Josué et à Israël. Alors là, on se dit, ah, il va y avoir de la baston. Eh bien, en fait, non, c'est pareil. Il va encore voir le chapitre 9. Et ça n'est qu'au chapitre 10 que vous allez avoir le récit de bataille. Donc là, c'est pareil. Concrètement, il faut lire les deux premiers versets du chapitre 9. Et ensuite, vous pouvez sauter directement au chapitre 10. Adonis Tzedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué avait pris le Haï et qu'il avait frappé d'anathème, qu'il avait traité le Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, que les habitants de Gabéon avaient fait la paix avec Israël, etc. Il eut très peur, blablabla. Et là, il y a la coalition. Donc, au chapitre 10, il va y avoir une coalition. Donc, entre les deux, on a le récit, le chapitre 9, le gros du chapitre 9, qui est le récit de l'alliance avec Gabaon. Alors, c'est quoi cette histoire au chapitre 9? Eh bien, ce sont les habitants de Gabaon qui se disent, mince, quand on voit comment ça s'est passé avec Jéricho et avec Haï, on a peur de ce qui va nous arriver, on est les prochains sur la liste. Alors, ils ont une ruse, ils arrivent, ils font exprès de s'habiller avec des vieux vêtements tout déchirés, de prendre des vieux pains rassis, ils arrivent devant Josué, ils disent, ah, nous venons de très très loin, regarde, nos vêtements étaient neufs quand on est partis, notre pain était tout frais, sorti du four quand on est parti, etc., etc., et maintenant c'est rassis, c'est bien la preuve qu'on habite très très loin de chez toi, fais la paix avec nous. Et Josué fait la paix avec eux, il conclut une alliance. Alors qu'en fait, ils habitaient de l'autre côté, juste à côté, etc. Bon. Et du coup, au chapitre 10, quand il y a cette histoire de coalition, là encore, ils apprennent ce qu'ils ont fait, ils se disent on va attaquer les Israélites, sauf que, là, incohérence narrative, c'est pas Israël qu'ils attaquent au chapitre 10, c'est Gabaon. Alors, pourquoi est-ce qu'ils attaquent Gabaon? On va comprendre. Je ne vois pas pourquoi il y a toute une coalition de rois qui a peur des Israélites et qui du coup attaquent Gabaon. Ça n'a pas de sens. Bref, toujours est-il que dans l'état actuel du texte, c'est Gabaon qu'ils attaquent, les Israélites les rejoignent. Et bien sûr, il y a la victoire. Alors il y a la victoire, Josué s'illustre par des hauts faits, et dans, tout au long du chapitre 10, on voit que partout où on a l'impression que c'est Josué qui fait des exploits, il y a toujours un rédacteur derrière qui vient corriger en disant « non, c'est pas Josué, c'est Yahvé ». À tel point qu'à un moment donné dans le verset, si vous lisez le texte hébreu, c'est presque Yahvé qui dégaine son épée et qui passe la ville au fil de l'épée. Parce qu'en fait, dans l'état premier du texte, c'était Josué, mais quelqu'un a inséré Yahvé là où ça devait être Josué, et du coup, il y a des petites incohérences comme ça, où c'est Yahvé qui passe la ville au fil de l'épée. Bon, moi, je veux bien, hein, mais... Bref. Donc, il y a un peu on accumule un certain nombre de miracles, verset 11, Dieu fait tomber des grosses pierres, etc., enfin bref. Et puis alors, il y a la bataille de Gabaon, d'une part, et puis ensuite, il y a l'histoire à Makkéda. Les cinq rois se cachent à Makkéda dans une grotte, on les enferme pendant qu'on fait la guerre à côté, et puis on les sort, et on leur inflige le même sort que ce qui était arrivé. Verset 26, Josué les mit à mort, il les pendit à cinq arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Donc il y a des histoires par rapport à cette grotte de Makkéda. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés, on mit à l'entrée de la grotte de grosses pierres, elles y sont restées jusqu'à ce jour même. Et puis ensuite, à la fin du chapitre 10, du coup, comme ils ont vaincu cette coalition qui était censée mettre un terme à la progression israélite, en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Du coup, comme ils ont pris les cinq rois, ils enchaînent dans la foulée et ils attaquent toutes les villes. Donc, c'est une campagne militaire méridionale. Tout le sud, toute la partie sud de la terre promise est prise d'un coup grâce à cette campagne. Donc, d'un seul coup, le rythme s'accélère. Donc, le chapitre 10, là, est vraiment un moment clé, si vous voulez, c'est un moment charnière, puisque avant on attaquait une ville puis l'autre, et là en fait on attaque tout d'un coup. Alors il y a des incohérences narratives, puisque par exemple à un moment donné, on vient attaquer la ville d'un roi qu'on vient de tuer, et on dit qu'on tue le roi de la ville, mais on vient de le tuer apparemment, donc il meurt deux fois, mais bon, c'est pas grave. Et donc d'un seul coup, ils prennent toutes les villes, et là le récit se précipite. Au chapitre 11, alors au fait, hein, pour le chapitre 10, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Le texte de Josué 10, volume 252 dans la collection Orbis Biblicus et Orientalis. Je vous invite à l'acheter, à le lire, c'est passionnant. Vous saurez tout sur le chapitre 10 du livre de Josué. Donc au chapitre 11, vous avez de nouveau une coalition, cette fois-ci au nord. Et donc, de la même manière qu'il y a une campagne militaire méridionale, il y a une campagne militaire septentrionale au chapitre 11, qui fait que là encore, on remporte tout. Alors, Josué s'illustre là encore, mais il y a toujours des rédacteurs pour prendre soin de rabaisser Josué. En cas où Josué aura la grosse tête, on dit non, mais en fait, c'est pas toi, c'est Yahvé. D'ailleurs, regardez par exemple verset 15, ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse, son serviteur. Moïse l'avait ordonné à Josué, et Josué le fit. Hein, on rappelle, on rappelle qui est le chef. Il ne négligea rien de tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Donc, Josué, c'est un exécutant. On rappelle à ceux qui pourraient croire que Josué est quelqu'un d'extraordinaire. Hein, au chapitre 6, au chapitre 10, on a l'impression qu'il parle au soleil, à la lune. On se dit, mais c'est qui ce Josué, etc. Bon, non, attendez, on se calme. Josué fait simplement ce qu'on lui dit de faire, et c'est tout. Bref, donc il prend tout. Si bien qu'au chapitre 12, ça y est, regardez la fin du chapitre 11. Dernière phrase du chapitre 11, le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Voilà. Alors, regardez tout le verset 23. Hein. Josué prit donc tout le pays exactement comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Hein, c'est pareil, hein. Attention, hein. On n'oublie pas. Hein. Josué le donna comme patrimoine à Israël, selon sa répartition, tribu par tribu, le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Vous pourriez vous arrêter là, hein. Ça y est. C'est la fin du livre de Josué, ils ont tout pris, Josué donne tribu par tribu, le pays est tranquille, sans guerre, tout est bien qui finit bien, happy end. Bon, alors, au chapitre 12, vous aurez droit en annexe la liste des villes et des rois qui ont été pris. Hein, regardez, vous avez toute une liste de tout ce qui a été pris. Ça pourrait être une annexe, hein, au livre de Josué, le jeu évident, on met une annexe. Et on s'arrête là. Eh bien non, en fait, le livre de Josué continue. Chapitre 13... Quand Josué fut vieux, avancé en âge, le Seigneur lui dit « Tu es vieux, avancé en âge, le pays dont il faut encore prendre possession est très grand. » Ah bon ? Je comprends pas, on vient de dire que ça y est, c'est fait, qu'il a tout réparti, et que... Ah ben non. Finalement, chapitre 13, c'est reparti pour un tour. Et là, vous avez, en fait, une deuxième moitié du livre de Josué. Donc, vous voyez comment ça marche, comment on construit un livre. On dit, bah tiens, finalement, allez, hop, la fin est un peu courte, on fait la version longue. Vous allez au cinéma, vous avez la version longue. Voilà, vous avez la version longue, vous avez le droit pour une heure de plus. Donc, en fait, on nous explique qu'en fait, eh bien non, il reste encore beaucoup de travail à faire, qu'il reste encore beaucoup de populations à chasser, et que donc, il faut répartir. Alors, il va y avoir la répartition. On commence par se débarrasser des tribus transjordaniennes. Si vous vous souvenez, dans Nombre, chapitre 32... Il y avait donc des tribus qui avaient dit « Ah, mais nous, on resterait bien de l'autre côté du Jourdain, là, en Transjordanie, là, la Jordanie actuelle. » Et alors on dit « Oui, bah attendez, vous rigolez, vous voulez pas faire le sale boulot. Alors si, on vous accompagne pour faire la guerre en Cisjordanie, et puis ensuite, quand c'est fini, on rentrera chez nous. » Bon, bah là, ça y est, c'est fait. Donc, on leur donne leur territoire. C'est le chapitre 13. Et puis ensuite, on va répartir, à partir du chapitre 14, en fonction des tribus. Notamment, Juda, on commence par Juda, parce que quand même, Juda, c'est quand même la tribu majeure. Rétrospectivement, à l'époque, il n'y a pas vraiment de raison de commencer par Juda, mais en fait, nous, on sait bien qu'en fait, Juda, ce sera Jérusalem, ce sera David, etc., etc. Donc, on comprend bien pourquoi on commence par ça. Donc, vous avez toute la liste des frontières du territoire de toutes les villes. Donc, c'est très intéressant au niveau de la géographie historique, mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. Ensuite, on continue par les fils de Joseph, chapitre 16. On continue, donc, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé. Et puis, enfin... Il faut s'occuper des autres. Alors, au chapitre 18, on fait un tirage au sort. Il reste encore 7 tribus, nous dit-on, verset 2. Et donc, pareil, on fait un tirage au sort. Et là, on s'occupe ensuite Benjamin, verset 11. Chapitre 19, Siméon. Zabulon, verset 10. Issachar, verset 17. Asser, verset 24. Nephtali. Vous voyez, ça va très, très vite. Là encore, le rythme s'accélère. Donc, de la même manière qu'au niveau de la campagne militaire, on s'arrête beaucoup sur Jéricho, puis un petit peu sur Aï, et puis ensuite tout s'accélère. Là, c'est pareil. Juda, on passe beaucoup de temps, et puis petit à petit, ça s'accélère. c'est une progression exponentielle. Et donc, du coup, à la fin, hop, on se dépêche très bien. Il y a Dan, tout ça, ça va très vite. Chapitre 20, les villes de refuge. Là, on en avait déjà parlé aussi. Ce sont les villes où les gens peuvent se cacher s'ils sont accusés de meurtre. Et on ne les tue pas en attendant qu'ils aient l'occasion de se défendre. Chapitre 21, les villes des Lévites. Donc tout ça, ça vous rappelle des souvenirs, puisque on avait déjà parlé dans le Pentateuch. Chapitre 22, on revient sur un problème des tribus transjordaniennes. Qu'est-ce qu'on fait d'elles? Vous voyez, c'est quand même problématique, puisque le Jourdain marque une frontière naturelle. Donc on se dit, la terre promise, c'est ça, c'est le Jourdain, entre la mer Méditerranée et le Jourdain, tout va très bien. Mais de l'autre côté, est-ce que vraiment on peut préserver une unité nationale avec des tribus de l'autre côté? Difficile. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Se pose le problème de la centralisation du culte. À l'époque, le sanctuaire se balade. Alors, on ne sait pas trop, est-ce qu'il est à Silo, est-ce qu'il est à Bethel, etc. Il se balade. Mais on sait que il y aura le lieu que le Seigneur choisira pour y faire demeurer son nom. Hein, c'est une expression que vous retrouvez, je ne vous l'ai pas dit, mais vous la retrouvez de temps en temps comme ça dans le livre de Josué. Regardez, par exemple, à la fin du chapitre 9, jusqu'à ce jour, au lieu qu'il choisirait. Vous voyez, chapitre 9, verset 27, vous retrouvez cette expression typiquement deutéronomiste. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir à Jérusalem, à l'avenir, une fois que Jérusalem aura été prise et établie comme capitale et que le temple sera construit. Mais, vous voyez, on écrit a posteriori, donc on écrit en se posant ce genre de questions. Et figurez-vous qu'ils bâtissent un hôtel. Ils bâtissent un hôtel, catastrophe. On vient les voir, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, ça y est, vous faites truc dans votre coin, etc., etc. Alors, ils se défendent en disant, mais non, pas du tout, c'était pas un hôtel. Ils disent, verset 23, « Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner du Seigneur, si c'est pour y offrir des holocaustes et des offrandes végétales, si c'est pour y offrir des sacrifices de paix, que les seigneurs en demandent compte !» Non, voilà. Le Seigneur, verset 25, « Le Seigneur a mis le Jourdain pour frontière, blablabla. » Verset 26, « Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pas pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. » Donc vous, c'est le contraire. Non, c'est pas du tout pour faire des sacrifices. Au contraire, c'est une sorte de témoignage qu'on est bien tous ensemble. Sauf que le mot hôtel en hébreu, c'est misbéar. Ça vient de la racine zavar qui veut dire sacrifier. Donc un hôtel, c'est littéralement, c'est le lieu où on fait le sacrifice. Donc de dire, oui, on fait un hôtel, mais pas pour y faire des sacrifices, mon œil. Enfin, mon œil. Moi, je dis ça, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous avez une autre idée, mais ouais. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, ce chapitre-là présente le problème des tribus transjordaniennes. Déjà qu'elle voulait, on se demandait s'ils allaient se battre et tout, etc. Enfin voilà. Donc c'est un problème récurrent. Alors bon, c'est pas tout, mais Josué, il est vieux depuis le chapitre 13, je vous signale. Josué, il est vieux depuis le chapitre 13. Ben, au chapitre 23, il est encore plus vieux. Bien des jours s'étaient écoulés depuis que le Seigneur avait accordé le repos à Israël. Josué était vieux, verset 2. Ben oui. Bon. Il leur dit, je suis vieux. Bon, on a compris. Alors du coup, il fait un grand discours, etc., etc., blablabla, blablabla. Il leur dit, bien sûr, il faut mettre en pratique, regardez verset 6, « Efforcez-vous vraiment d'observer, de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. » Vous retrouvez la même chose qu'au chapitre 1er. Et bien sûr, c'est Moïse qui est là, qui est central, la loi, puis c'est écrit, c'est la loi. Donc, on est à fond dans du vocabulaire deutéronomiste. Verset 8, « C'est seulement à Yahvé, votre Dieu, que vous vous attacherez, etc., etc. Aimez Yahvé, votre Dieu, etc. Si vous attachez à ces nations qui restent avec vous, si vous vous alliez avec elles, etc. Elles seront pour vous un filet et un piège, verset 13. Je m'en vais aujourd'hui, verset 14, etc., etc. Bon, et puis, ça y est, c'est fini. Donc, à la fin du chapitre 23, discours d'adieu, le livre s'arrête. Eh ben non, c'est pareil, chapitre 24, Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Bon, alors ça y est, de nouveau, il les convoque, et de nouveau un discours d'adieu, en disant pareil, un grand rappel historique, il repart depuis Terah, depuis Abraham, depuis Isaac, Jacob, l'Égypte, Moïse, Aaron, enfin, il fait tout un rappel historique, et puis il dit, voilà, verset 14, maintenant, craignez Yahvé, servez-le, supprimez les dieux, etc., etc. Donc il dit, choisissez, alors là, le chapitre 24 est un peu différent parce qu'il se présente un peu comme un traité d'alliance. Vous devez aujourd'hui conclure une alliance. Il dit, choisissez qui vous voulez servir, verset 15, ou bien les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, à l'époque d'Abraham, ou bien les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, c'est-à-dire les dieux cananéens, moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Ça, c'est l'affirmation, c'est Josué qui dit ça. « Anochi uvetin avod et Adonai » en hébreu. Moi, je me souviens, j'avais ce petit verset-là sur mon mur. Bref. Le Seigneur répondit, « Mais non, bien sûr que non, nous allons servir Dieu. » Josué insiste, verset 19, « Vous ne pourrez pas servir Yahvé, c'est un Dieu saint, un Dieu à la passion jalouse, ça ne marchera pas, etc. etc. » Le peuple dit, verset 21, « Non, nous servirons Yahvé. » Enfin bref, donc Josué leur dit, vous êtes vraiment sûr? Oui, on est sûr. Bon, il dit, voilà, donc verset 22, vous êtes témoin contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi de servir Yahvé. Ils répondirent, témoin. Voilà. Josué conclut ce jour-là, verset 25, une alliance pour le peuple. Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Donc le livre de la loi, voyez, cette insistance de Théronomie sur la mise par écrit. Et il y a cette pierre qui est un témoignage. Alors on se dit, ça y est, il va mourir. En effet, après cela, Josué, fils de Noun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans, verset 29. On l'ensevelit. Et là, on pourrait s'arrêter là. Il y a un petit verset supplémentaire, verset 32-33, où il est question des ossements de Joseph, que les Israélites avaient emportés d'Égypte, furent ensevelis à Sichem. Ça vous rappelle la fin de la Genèse, chapitre 50, verset 25, où Joseph avait dit, ah, quand vous serez arrivés, pensez à mes ossements. Donc vous avez une sorte d'encadrement. C'est une sorte de dire, voilà, ça, tout est bien qui finit bien, c'est vraiment fini, même les ossements de Joseph sont là, etc., etc. Donc, ça y est, c'est vraiment, vraiment fini. Donc, on pourrait dire, là s'arrête l'exateuque. On peut dire, ça y est, c'est votre Bible, là, elle s'arrête là. Sauf qu'ensuite, on attaque le livre des juges. Je vois que l'heure tourne, et moi qui voulais faire le livre des juges, je suis obligé d'aller très vite. Le livre des juges, chapitre 1, verset 1er, après la mort de Josué. Bon, très bien. Donc on voit bien que le livre des juges se présente comme étant la suite immédiate du livre de Josué. Et de fait, dans les Bibles, le livre des juges est situé immédiatement après celui de Josué. Alors on nous explique, il dit, ben maintenant c'est pas tout, mais il faut se mettre au boulot, il faut attaquer. Donc, il y a au chapitre 1er des récits de guerre, de Siméon qui attaque, etc., etc. Et puis on nous dit seulement le problème c'est que les autres ils s'en sortent pas très bien. Le chapitre 1er est un chapitre plutôt négatif et tout le livre des juges va être un livre négatif. Donc le chapitre 1er annonce la couleur en disant qu'ils n'arrivent pas. Ils ne purent déposséder les habitants, verset 19. Verset 21, les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Jébusites qui habitaient Jérusalem. Verset 27, Manassé ne prit pas possession de Beth-Shéan. Verset 29, Éphraïm ne déposséda pas les Cananéens. Verset 30, 31, 33, 35, les Amorites persistèrent à habiter, etc. Donc globalement, le chapitre 1er est quand même dit, ben voilà, finalement, ils essayent mais ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les motiver. Et donc, chapitre 2, verset 6, Josué renvoya le peuple. Ah, mais attendez, mais il est mort, Josué. Ben non, écoutez, il est ressuscité, manifestement, puisque, chapitre 2, verset 6, il renvoie le peuple, chacun s'en allait, le peuple servit le Seigneur pendant tous les jours de Josué. Bon, ben, c'est très bien. Verset 8, Josué, fils de Noun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Hein, ça vous paraît bizarre, hein? Voilà. Si vous regardez, c'est à peu près du copier-coller par rapport à la fin du chapitre 24 de Josué. C'est encore les exemples flagrants de phases rédactionnelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce chapitre premier de Josué, le livre de Josué devait commencer après cette section-là. Donc vous pouvez virer l'histoire des ossements de Joseph, vous pouvez virer l'histoire du chapitre premier des juges, etc. Vous pouvez coller la fin de Josué et les juges. Vous voyez ce que je veux dire? Et hop, entre deux, quelqu'un dit « Ah mais non, quand même, je rédigerais bien un premier chapitre que je mettrais bien en tête du livre des juges. » Mais le problème, c'est que c'est bien joli, c'est bien joli de vouloir rédiger un chapitre premier du livre, enfin, un chapitre du livre des juges avant les autres, mais du coup, ça fait un peu pagaille, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en sort quand même, hein, on comprend bien. Alors voilà, et alors, au chapitre 2, le chapitre 2 nous annonce aussi le contenu du livre des juges. Voilà ce qui se passe. L'idée est simple, c'est que le peuple est désobéissant. Le peuple est désobéissant. Ils se mettent à servir d'autres dieux. On vous explique le principe. Vous allez avoir un modèle qui va se répéter. Au chapitre 2, on nous dit, verset 11, ils font ce qui déplaît à Yahvé. Verset 12, ils se mettent à suivre d'autres dieux. Verset 14, le Seigneur se met en colère. Du coup, Dieu les opprime par des ennemis. Verset 16, le Seigneur suscite des juges qui les sauvent. Verset 18, le Seigneur était avec le juge et les délivrait. Verset 19, mais à la mort du juge, il recommençait à se pervertir. Donc c'est un cycle. Et ce cycle va se répéter une douzaine de fois dans le livre des juges. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle le livre des juges, puisqu'à chaque fois Dieu suscite des juges. Alors pas un juge au sens législatif, du genre le juge avec son marteau, un peu de silence dans la salle, tout ça, etc. C'est le juge au sens de leader, si vous voulez, le chef du peuple qui va les délivrer. Et par ailleurs, tous ces moments-là sont des moments pour mettre à l'épreuve. On nous explique bien que... Parce que dans Josué, à la fin du chapitre 12, on nous disait, chapitre 11 et 12, on disait, ça y est, ils avaient remporté toutes les victoires et tout allait bien. Et puis ensuite, on nous dit, mais non, en fait, il y a encore des nations. Alors, on nous explique pourquoi il y en a encore. Il y a des nations que Josué a laissées quand il est mort, verset 21. Verset 22, afin de mettre par elles Israël à l'épreuve pour voir s'ils veilleront ou non à suivre la voie du Seigneur. Donc c'est ça, en fait. C'est pour mettre par elles à l'épreuve Israël, chapitre 3, verset 1er. Verset 4, ceux-là servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, donc les nations, pour savoir s'ils écouteraient les commandements que le Seigneur avait institués pour leur père par l'intermédiaire de Moïse. Attention, hein, Moïse, n'oubliez pas. Hein. Donc, on nous explique que c'est pour ça qu'il y a toutes ces nations, c'est pour mettre à l'épreuve, comme dans le Deutéronome, hein, rappelez-vous, je t'ai fait souffrir de la faim, je t'ai, etc., etc., pour te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Donc, on est dans la perspective deutéronomiste. Donc, le livre des juges, manifestement, ça fait partie de cette œuvre deutéronomiste. Alors, vous avez tout le cycle qui commence, disons, au chapitre 3, à partir du verset 7 avec Othniel, et qui va se terminer à la fin du chapitre 16. Donc c'est le gros du chapitre des juges, du livre des juges, c'est ça, chapitre 3, chapitre 16 inclus, c'est le cycle des juges. Et puis à la fin, vous aurez, au chapitre 17 à 21, vous aurez une deuxième partie. Donc le livre des juges, c'est deux grosses parties très inégales, une première partie qui est le grand cycle des juges, et une deuxième partie à la fin qui est presque un appendice, pourrait-on dire. Alors on ne va pas s'arrêter, des juges, il y en a beaucoup, il y a des petites notices qui sont très courtes, Othniel, Ehud, Shamgar c'est un seul verset, Déborah, chapitre 4 et 5, deux chapitres très intéressants, en plus d'une femme. C'est intéressant, hein. Et il y a un gars hein, qui s'appelle Barak, mais Barak, franchement, il dit, chapitre 4, verset 8, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu viens pas, j'irai pas. » Barak, c'est un mec, mais il est chocotte, quoi. Hein. Il a besoin de Déborah pour lui dire, « Allez, mon gars. » Bon, bref. Donc, je vous laisse le plaisir de lire. C'est des petites histoires qui se lisent très bien. Vous n'avez pas besoin de moi pour lire tout ça. Hein. Vous avez lu. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'ironie. On est vraiment dans le côté un peu théâtral. Enfin, voilà, c'est très sympa. Chapitre 5, Cantique de Déborah. Un texte très intéressant dans une langue assez différente, soit dialectale, soit archaïque. Ensuite, un autre cycle assez long, Gédéon. Chapitre 6 jusqu'à 9, en fait jusqu'à 8. 6-7-8 pour Gédéon. Gédéon, c'est celui qui demande tout le temps des signes. Hein. Il dit, ah, mais moi, je veux un signe. Alors, d'abord, Dieu met le feu. Et à chapitre 6, verset 21, il met le feu au sacrifice. Chapitre 6, un peu plus loin, il dit, c'est la fameuse toison. Je veux mettre une toison, mais du coup... s'il y a de la rosée sur la toison seule et que partout ailleurs le sol reste sec, je saurai que tu sauverais Israël. Et puis en fait, finalement, il demande, etc., etc. Donc, ensuite il demande le contraire. Enfin voilà, donc Gédéon, c'est un peu le poltron, mais Dieu lui donne des signes, donc il y va, et avec 300 hommes, il met la pâtée. Avec des ruses, hein, ils arrivent avec des poteries, ils brisent des poteries, ils ont des flambeaux, ils se mettent tout autour. C'est de nuit, les gens croient qu'ils sont des milliers, alors qu'en fait, ils sont que 300. Donc, c'est des histoires vraiment très, très intéressantes. Chapitre 9 est dans le prolongement, puisque c'est Abimélech, le fils de Gédéon, qui veut être roi. Abimélech, ça veut dire « mon père est roi ». Donc, il est le fils du roi, mais il veut être roi lui-même. Et puis en fait il tue tous ses frères pour être sûr d'être le seul, donc c'est radical, mais en même temps c'est dans l'Antiquité ça se faisait, sauf un autre de ses demi-frères qui reste en vie et qui du coup voilà. Donc je vous laisse pareil, chapitre 10. Alors après ça il y a d'autres juges, chapitre 10, Tola, Yahir, etc. Bon, des petites histoires. Jephté, chapitre 11 et 12, avec une histoire vraiment sordide où le gars il fait des serments un peu comme Josué qui avait fait alliance avec les Gabaonites sans avoir trop réfléchi avant. Et bien là, Jephté, il dit, voilà, je suis tellement content que, voilà, il dit, chapitre 11, verset 30-31, « Si vraiment tu me livres les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur et je l'offrirai en holocauste. » Voilà, la première personne qui sort, je te la consacrerai, Seigneur, etc. Voilà. Alors, il rentre et qui sort? Bah, sa fille, son unique. Et puis, il pleure, il dit, mince, catastrophe, il a mieux fait de se taire. Bon. Et puis, finalement, du coup, c'est ce qui se passe. Alors, avec l'ambiguïté de savoir dans cette histoire, est-ce que ça veut dire qu'il la tue? Est-ce que c'est un sacrifice humain? Quelle horreur! Ou est-ce que c'est, en fait, une forme de consécration? C'est-à-dire, elle sera un peu comme les nonnes au couvent. Parce qu'on insiste sur le fait qu'elle était vierge et qu'elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Donc, c'est peut-être plutôt cette idée-là, plutôt de l'avoir mise à mort. En même temps, on n'en sait rien. Ensuite, vous avez un autre personnage important, Samson, au chapitre 13 à 16, donc il vient conclure le cycle des... C'est le dernier juge du cycle des juges. Et Samson, ça vient de Shamash. Shamash, c'est le soleil en hébreu, donc Shimshon en hébreu, c'est le solaire, littéralement, c'est celui qui est... Donc c'est un personnage solaire. Et évidemment, quand vous voyez ses exploits, c'est un grand baraqué, etc., etc., on pense à Héraclès, Hercule, bien sûr, parce qu'il fait des exploits, etc., qui est aussi un personnage solaire dans l'Antiquité. Donc, il y a des affinités littéraires, ce ne sont pas de récits indépendants. Ils ont soit des sources communes, soit l'un qu'a copié sur l'autre. En tout cas, il y a une parenté littéraire entre le récit de Samson et le récit d'Héraclès. Alors, Samson, d'où est-ce qu'il tire sa force? De ses cheveux. Puisque le début de l'histoire, c'est standard, une femme qui est stérile et qui dira « Seigneur, si seulement je pouvais avoir un enfant, je te le consacrerai ». Vous verrez, on retrouvera ça. La stérilité, on l'avait déjà vu dans la Genèse. On va la retrouver de nouveau avec Anne, la mère de Samuel, et ça, c'est la semaine prochaine. Et donc, du coup, il sera Nazir, nous dit-on, chapitre 13, verset 5. Vous vous souvenez des Nazirs? Nombre, chapitre 6. Donc, pas de fruits de la vigne, il ne doit pas s'approcher des morts, il ne doit pas se couper les cheveux. Donc, sa force est dans ses cheveux. Alors, du coup, il y a des histoires intéressantes. Le pauvre, ça se passe très mal avec les femmes. Hein. Il n'a vraiment pas de bol avec les femmes. Il épouse une femme, alors c'est une philistine, alors les gens ne sont pas contents, disent, mais enfin quand même, tu vas épouser une philistine, t'as pas honte, tout ça. Du coup, ça lui attire des problèmes parce qu'il va à un banquet, et puis du coup, les copains de la femme lui disent d'aller soutirer les informations parce qu'il leur donne une énigme. Donc, sa femme, ils lui disent, verset 15, chapitre 14, verset 15, ils dirent à la femme de Samson, dupe ton mari pour qu'il nous explique l'énigme. Verset 16, la femme de Samson se mit à le poursuivre de ses pleurs en disant, tu ne m'aimes pas. Voilà, etc. Enfin, voilà, ce truc, mais c'est ultra stéréotypé, quoi. Verset 17, elle le poursuivit de ses pleurs pendant 7 jours que dura le banquet. Vous imaginez la femme qui pendant 7 jours pleure, oui, tu m'aimes pas, si tu m'aimais, tu me donnerais la solution de l'énigme, etc., etc. Elle le tourmentait, nous dit-on, etc., etc. Donc finalement, il lui donne la réponse. Alors ça se termine mal, du coup, sa femme, elle s'en va. Un peu plus tard, chapitre 15, il retourne voir sa femme, sauf qu'entre-temps, on l'a donné à un autre. Alors le père de la femme dit, bah t'as qu'à prendre sa sœur. Vous voyez, à la place de la femme à l'époque, hein, les femmes sont interchangeables, si c'est pas elle et sa sœur, moi je sais pas, hein, je suis pas sûr que les deux sœurs se valent, bref. Bon. Donc c'est très intéressant, tout ça c'est des petites histoires, on n'a pas le temps de s'arrêter dessus. Chapitre 16, il vit une prostituée, elle a avec elle, donc il a une deuxième femme, mais ça se passe encore mal. Ensuite, verset 4, chapitre 16, il aima encore une autre femme, elle s'appelle Dalila. De toute façon, c'est pas Dalida, hein, c'est Dalila. Mais alors c'est pareil, vous voyez, verset 5, les Philistins lui parlent, il lui dit « dupe-le pour savoir d'où lui vient sa grande force ». Les femmes, elles sont là pour duper, c'est le rôle de la femme, elle est là pour sournoisement extirper des informations. Alors à plusieurs reprises, verset 6, elle vient le voir, « dis-moi, je t'en prie », etc., etc. Alors lui donne une réponse qui est fausse, ça marche pas. Verset 10, « de nouveau, tu as essayé de me tromper, tu m'as dit des mensonges ». Dalila, elle se plaint, tu vois, « maintenant je t'en prie, dis-moi avec quoi il faudrait te lier ». Deuxième, encore un autre truc, verset 13, Dalila dit à Samson, jusqu'ici tu as essayé de me tromper, tu m'as dit des mensonges. Elle retourne la situation. Dans l'histoire, c'est Samson qui a tort, hein, parce qu'il lui raconte des craques. En même temps, c'est elle qui essaie de le duper. Alors, encore un autre truc, etc. Verset 15, quatrième fois, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? C'est extraordinaire comment elle lui parle comme ça. Ça c'est les femmes, ça. Voilà trois fois que tu as essayé de me tromper, tu ne m'as pas dit d'où venait ta grande force. Comme elle le tourmentait et le harcelait tous les jours par ses paroles, il finit par perdre toute patience. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui donne la solution. Il dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Mais vous imaginez, mais c'est comique quand même. C'est quand même, c'est du théâtre, quoi. Et puis on dit, c'est pas pour les femmes. Hein. Du coup, finalement, il lui coupe vraiment les cheveux, du coup il perd sa force, du coup il le ligote et l'emmène à Gaza. Vous connaissez la ville de Gaza, malheureusement, on a entendu parler encore tout récemment. Et là il l'attache. Et là il l'exhibe, ils font des grands sacrifices à leur dieu Dagon, verset 23. Et là il l'exhibe, verset 25, appelez Samson qui nous divertisse. Vous connaissez King Kong? Vous savez, à un moment donné, King Kong dit, allez hop, on veut le voir, on veut le voir. Bon, sauf que là c'est pareil, entre-temps ses cheveux ont un peu repoussé, il a les yeux crevés, tout ça, mais il a encore de la force. Il dit, ah Dieu, s'il te plaît, donne-moi un peu la force. Et hop! Avec ses gros bras musclés, il arrive à faire tomber les colonnes, tout le monde s'écroule, lui il meurt, mais eux ils meurent tous avec lui, etc. etc. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 16, et c'est comme ça que s'achève l'essentiel du livre des juges, puisque je vous avais dit que c'était le cycle des juges, ce cycle infernal, où à chaque fois le peuple est désobéissant, etc. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour finir le livre des juges. Vous avez une deuxième section qui est plus courte, chapitre 17 à 21, qui est une section autonome qui a son propre style. Par exemple, il y a un refrain qui est récurrent. Regardez chapitre 17, verset 6. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui convenait. » Et vous retrouvez le même refrain, chapitre 18, verset 1er. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. En ce temps-là aussi, etc. etc. » Et puis, chapitre 19, verset 1. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Et puis, encore, vous continuez, chapitre 21, verset 25. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui convenait. » Donc, ces chapitres-là ont aussi ce côté un peu cyclique de dire, voilà, à l'époque, c'était le bazar. Alors, on l'a déjà vu avec le cycle des juges, où effectivement, ce cycle où le peuple se détourne, il est idolâtre, Dieu le punit en envoyant des ennemis, du coup, les ennemis les oppriment, du coup, le peuple se repent, du coup, Dieu envoie un juge, c'est-à-dire un sauveur, qui délivre le peuple, mais une fois que le juge est mort, eh bien, le peuple de nouveau désobéit, et le cycle continue comme ça, etc., etc. Eh bien, là, de la même manière. Alors, vous avez, en fait, dans cette deuxième partie, deux sections, deux épisodes, si vous voulez, les chapitres 17-18, qui raconte l'épisode d'un homme qui s'appelle Miché, c'est pas le prophète Miché, hein, c'en est un autre, avec les problèmes avec les gens de la tribu de Dan, donc les Danites. Et puis un autre épisode, les chapitres 19 à 21, où là, c'est cette fois-ci un problème avec les Benjaminites. Alors, les chapitres, alors le premier épisode, chapitre 17-18, je suis obligé de faire court, hein, c'est quelqu'un qui se fait son sanctuaire, il a de l'argent, il se dit, tiens, plutôt que de me faire un truc pour moi, je vais faire un sanctuaire pour Dieu. Alors on pourrait dire, mais non, attendez, il n'a pas le droit. Sauf qu'à l'époque, justement, on nous explique que chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc à l'époque, quelqu'un se dit, je vais faire un sanctuaire, il fait son sanctuaire, il paye un prêtre, il a même de l'argent pour payer son prêtre, etc. Oui ? Alors oui, bien sûr, absolument, avec une statue, etc. Non, mais à l'époque, verset 3, hein, « Je vais consacrer cet argent au Seigneur afin d'en faire pour mon fils une statue, une idole de métal fondu, etc. Bon. » Donc, effectivement, il a son sanctuaire, tout se passe bien, sauf qu'à un moment donné, les Danites passent par là, se disent « Tiens, c'est une bonne idée », ils prennent tout, ils prennent l'argent, et puis ils partent avec le prêtre. Ils arrivent à convaincre le prêtre en disant, chapitre 18, verset 19, « Vaut-il mieux que tu sois prêtre pour la maison d'un seul homme ou que tu sois prêtre pour une tribu, un clan en Israël ?» Donc comme ça, les gens de Dan se disent « Comme ça, nous, on aura notre propre prêtre et notre propre sanctuaire. » Donc d'une part, c'est pas spécialement une bonne idée d'avoir son propre hôtel, mais en plus de ça, quand tu piques l'hôtel de l'autre, voilà, vous imaginez. Donc ça raconte les conflits entre les tribus, où les tribus se piquent les trucs les unes aux autres. Alors du coup, forcément, enfin voilà, donc c'est une histoire un peu moche par rapport à ça, et ça explique pourquoi à Dan c'est tout en haut, hein, c'est tout en haut du pays, ils sont un peu à part, ils avaient leur truc. Et puis chapitre 19-21, c'est un autre épisode, mais qui montre encore les tensions internes aux tribus d'Israël, comment ils se font la guerre entre eux, si vous voulez. Et au chapitre 19, c'est l'histoire d'un homme, encore avec sa femme, et c'est, bon, enfin, c'est une histoire un peu triste, mais sa femme le trompe, et elle le quitte. Mais lui, il est sympa. Verset 3, son mari décida d'aller la voir pour parler à son cœur et la ramener. Oh, c'est beau quand même, non? Vous ne trouvez pas? Quand même, le gars, sa femme le trompe. Et lui, il pourrait dire, bah, bon débarras. Pas du tout, il va la voir, il arrive à la convaincre de repartir avec lui. Sauf que, en chemin, il passe la nuit chez quelqu'un, un vieillard. Des gens arrivent et veulent coucher avec le gars. Donc, chapitre 19, verset 22. « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous ayons des relations avec lui. » Ça vous rappelle Genèse 19, hein, c'est l'épisode de Sodome. Et pareil, le vieillard dit « Non, pas lui, c'est mon invité. » Verset 24, « Voici ma fille qui est vierge, ainsi que la concubine de cet homme. » Donc la femme de l'homme, la femme que l'homme avait été récupérée, tu vois, qu'il avait déjà trompée, enfin bref. Du coup, verset 25, ils eurent des relations avec elle et la brutalisèrent toute la nuit jusqu'au matin. Je suis désolé, c'est sordide, mais c'est ça l'histoire. Hein, c'est, bon. Et du coup, elle en meurt, la pauvre. Elle arrive, le gars, le matin, se réveille et il la trouve étendue à l'entrée de sa maison, verset 27. Et il lui parle, pas de réponse, elle est morte. Il la met sur son âne, il s'en va. Verset 29, il en a le cœur brisé, il la découpe en 12 morceaux et l'envoya ainsi dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela disaient « Jamais rien de pareil n'est arrivé ni ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés d'Égypte jusqu'à ce jour. » Tu vois ? C'est-à-dire que, imaginez le gars, il avait le cœur brisé, enfin, sa femme le trompe, il la récupère, il est content de la ramener avec lui, finalement les gens la violent et la tuent, enfin bref, c'est une histoire terrible, le gars il devient fou, donc il la découpe en 12 morceaux, je suis d'accord que c'est ça pourrait faire un épisode des experts, c'est un peu serial killer, mais imaginez, c'est scandaleux, tout ça à cause de ces benjaminites. Du coup, les autres tribus sont ultra scandalisées d'apprendre ça. Elles disent, ça s'est jamais vu. Ils font la guerre aux benjaminites. et dessinent la tribu de Benjamin. Et après avoir... Donc je vous passe, c'est chapitre 20, c'est tout le récit de la bataille. Et au chapitre 21, ils se disent, aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait? C'est un génocide, quoi. La tribu de Benjamin a disparu, il n'y a plus personne de la tribu de Benjamin. Chapitre 21, verset 3. Seigneur de d'Israël, pourquoi une telle chose est-elle arrivée en Israël? Pourquoi manque-t-il aujourd'hui une tribu d'Israël? Verset 6, les Israélites avaient du regret au sujet de Benjamin, leur frère. Ils disaient, aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Et alors du coup, ils se disent, il faut faire quelque chose. Donc on va leur donner des femmes pour repeupler la tribu de Benjamin. Oui, 2 minutes, merci. Et alors, ça se termine un peu bizarrement, puisqu'ils veulent pas, en même temps, ils ne veulent pas donner leur propre fille, puisqu'on a promis de ne pas donner leur propre fille. Alors en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se mettre en embuscade à Silo, et quand ils trouvent les femmes, quand elles femmes, ils disent, chapitre 21, verset 21, « Quand les filles de Silo sortiront pour danser leur ronde, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une fille de Silo, et vous en irez au pays de Benjamin. » Donc ils prennent une femme, hop, ils les volent, ils les kidnappent, et ils les donnent à Benjamin, et on repeuple Benjamin comme ça. Donc la place des femmes, je suis vraiment désolé. Enfin, vous voyez, à l'époque, c'est pas extraordinaire. Et comme ça, on arrive à repeupler Benjamin. Alors derrière tout ça, il y a bien sûr la polémique, on va s'arrêter là, mais il y a toute la polémique de l'unité nationale. Vous voyez, en disant finalement, chaque tribu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'unité. S'il y avait un roi en Israël, il y aurait cette unité, mais là, les tribus font la guerre entre elles, il y a des choses sordides, il n'y a pas de centralisation du culte non plus, chacun se fait son hôtel, on pique l'hôtel de l'autre, etc. C'est ça le livre des juges. C'est un livre qui est un petit peu déprimant quand même. Hein. Alors il faut s'empresser de lire le livre de Samuel derrière. Enfin, il y a Ruth qui est d'abord très sympa, et ensuite le livre de Samuel, etc. Vous verrez, c'est quand même très très sympa de lire tout ça. On se voit la semaine prochaine et nous attaquons le livre de Samuel. Bonne semaine à tous. Si vous avez des questions, je me tiens à l'extérieur pour y répondre pendant un petit quart d'heure.